Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Univox, le magazine hebdomadaire de Radio Campus France, qui est dédié au monde étudiant, à l'associatif et aux initiatives citoyennes. Et nous sommes aujourd'hui depuis Radio Campus Grenoble avec trois membres de l'association Auroralpes, très beau nom d'ailleurs, qui fait référence à notre belle ville. Donc je suis avec Anne-Sara, qui est doctorante et une ancienne membre des Tribulations Savantes, qui est l'un de votre événement annuel de l'association. Donc bonjour.
Bonjour, c'est bien ça.
Mathis, toi t'es étudiant et investi dans la réalisation des émissions de vulgarisation scientifique sur Twitch. Bonjour. Et enfin Quentin, toi t'es médiateur scientifique et t'as contribué notamment à fonder cette association quand t'étais encore étudiant.
C'est ça, je suis arrivé au tout début de l'association.
Ouais, et donc justement en parlant de cette association, je pense que t'es le mieux placé pour répondre à la première question. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ?
L'histoire d'Auroralpes, à la base, c'est comme dans n'importe quelle association étudiante, ça naît dans les couloirs d'une université, dans les colloques étudiantes et tout. Et des étudiants qui voulaient, donc en physique plutôt à l'époque, qui voulaient monter des petits projets de vulgarisation scientifique et parler de science. Et donc, ils avaient besoin d'une structure pour pouvoir monter tout ça. Donc, ils ont naturellement monté une asso. Ils ont été encouragés aussi par leurs profs de l'époque, par des chercheurs qui leur ont dit « Ah, c'est une bonne idée, faites ça ». Et donc, de fil en aiguille, l'association, elle s'est structurée. Il y a des nouveaux membres qui sont arrivés, des nouvelles personnes qui elles-mêmes ont dit « Ah, bah, moi, j'aimerais bien faire tel ou tel projet ». Et donc, l'asso, comme ça, a commencé à porter différents projets autour des sciences. Et aujourd'hui, elle a une autre étape de sa vie. Il y a même des salariés, donc c'est un autre niveau. On ne sait pas trop à quel moment c'est parti comme ça, en cacahuète. Mais voilà, donc l'asso, elle est née vraiment de cette manière-là, dans des colloques, dans des discussions, en soirée. Et de fil en aiguille, plein de gens se sont greffés à l'aventure.
Oui, donc finalement une association qui a évolué au fil du temps.
Oui.
Et je voulais justement vous demander à tous, sur quel type de science vous êtes basé. Tu as parlé de physique avant, mais est-ce que aussi au fur et à mesure du temps, vous êtes élargi sur toutes les sciences en général?
C'est une grosse question, je laisserai la parole peut-être à Anne-Sara parce qu'elle ouvre un peu le champ des possibles dans l'asso. À l'origine, oui, c'est des étudiants beaucoup en physique, donc il y avait beaucoup d'astronomie notamment. Personnellement, c'est ma passion, donc je suis venu aux sciences par là. Et on essaye de plus en plus de s'ouvrir au-delà de l'astronomie, même si ça reste un peu nos premiers amours. Et par exemple, Anne-Sara, t'as ramené une expertise sur un autre sujet complètement différent.
Ouais. Du coup, moi, au sein de l'asso, j'ai développé une maquette sur la banquise qui permet de parler pas mal de climatologie plutôt, mais ça lie aussi océanographie et ça reste. J'ai un sujet qui est lié à la banquise, mais qui est quand même aussi assez physique. Donc, je peux parler de ça, de modélisation aussi, de modélisation climatique. Voilà. Donc, c'est un projet maintenant à part entière dans l'asso. Et ça montre à quel point on peut s'ouvrir. Mais il y a aussi les live Twitch qui peuvent être sur des thématiques très variées. Et donc, qui ne sont pas que de la physique.
Oui, et donc justement, toutes ces actions qui ont pour but de partager les sciences et de les rendre accessibles. Donc, d'où le terme de vulgarisation scientifique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est ?
C'est une bonne question. La vulgarisation, c'est l'idée de rendre accessibles des connaissances scientifiques et de les expliquer à différents publics. Il y a plein de publics possibles. Et donc, c'est de s'adapter à son public pour leur faire parvenir les connaissances. Nous, on aime bien dire qu'on fait de la médiation. C'est un peu différent. C'est l'idée qu'on rend accessibles les sciences, mais même culturellement. Et notre but n'est pas forcément tout le temps d'expliquer les sciences, mais aussi de montrer comment elles se font, de montrer que les scientifiques ne sont pas des génies dans leur laboratoire incompris, mais ce sont des personnes comme tout le monde, et de rendre beaucoup plus proche la science de cette manière-là aussi, pas simplement d'expliquer des connaissances.
Oui, bah par rapport justement à médiation, vulgarisation, sur ces termes, je voulais demander, est-ce qu'il faut plutôt les opposer ou c'est des termes qui sont complémentaires ?
Mathis, tu veux répondre ?
En fait, vulgarisation, souvent, on le voit un petit peu en mode on simplifie les sciences pour les gens et médiation, enfin en fait, le terme médiation, c'est plus on prend les sciences telles qu'elles sont en prenant le même niveau de connaissance, mais on va venir les expliquer aux personnes et en fait, c'est ça qui est important et c'est peut-être un. Comment dire, un problème de pas de parole, enfin de mots, enfin
vocabulaire.
De, ouais, de vocabulaire plutôt, merci. Dans le sens où, ouais, vulgarisation, c'est un petit peu mal connoté, enfin, c'est un peu ce qu'on voit avec les gens.
Il y a un peu le côté descendant, vertical, de, y a d'un côté celui qui sait et l'autre celui qui sait pas. Et c'est vrai que c'est pas forcément la vision qu'on a envie de prôner tout le temps. Parce que le public sait énormément de choses. Et simplement, l'objectif de la médiation notamment, c'est de se baser sur ce qu'il connaît. Pour l'emmener vers des connaissances scientifiques nouvelles. Mais ce n'est pas de dire « Ok, asseyez-vous, écoutez, on va vous expliquer la vie. »
Oui, donc bah justement, vous avez différentes actions pour rendre cette science accessible. Donc c'est quoi justement ? On a un peu pu parler très vite fait de l'émission Twitch que vous faites, qui s'appelle Lambda, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Donc oui, qu'est-ce que vous faites comme action, que ce soit au niveau local ou même national, peut-être ?
C'est très vaste. En fait, chaque membre peut proposer un projet et ensuite l'association peut le développer. Donc ouais, on a les live Twitch ou ça, on aime bien parce que ça permet de toucher un public très large sur Internet où on va pendant 2, 3, 4 heures parfois se poser, discuter de science avec des spécialistes de certains sujets. Donc c'est trop trop chouette. On a aussi, à la base de l'association, il y a une expérience qui s'appelle la Planeterella. Qui est une machine qui a été inventée à Grenoble et qui est une machine qui recrée des aurores boréales, enfin des aurores polaires, on appelle ça, sous une cloche et qui permet de les étudier, de les recréer, de les étudier. Et donc, l'association a été fondée par des personnes qui font cette machine, qui la fabriquent aujourd'hui et qui en font des animations. Donc, ça, c'est un gros pôle de l'association. C'est, d'ailleurs, notre nom vient de là, Auroralp. On s'intéresse beaucoup à la météorologie de l'espace, qui est cette discipline qui étudie les aurores, mais pas que, qui étudie en fait toutes les interactions entre notre Soleil et le système solaire, les planètes, etc. Donc ça, c'est une grosse partie de nos activités, d'ailleurs. Mais par ailleurs, on a des projets, par exemple, sur la pollution lumineuse, où on essaye de monter un observatoire de la pollution lumineuse pour pouvoir l'étudier. Il y a d'ailleurs sur le campus à Grenoble déjà des expériences qui existent, des caméras qui filment le ciel tout le temps et qui mesurent la pollution lumineuse. Voilà, on a des projets hyper variés. Donc les Tribulations Savantes, c'est un festival de science qui est organisé par les doctorants de l'université, qui a lieu tous les ans. Voilà, je sèche, il y a quoi d'autre comme projet ? C'est bête que ce soit moi qui sèche. Non, on a des projets très variables. Pour rester sur la météo de l'espace, on a par exemple fait un documentaire, tourné un documentaire sur le travail des scientifiques qui étudient les aurores. Donc moi, j'ai eu la chance de partir dans le cercle arctique pour aller filmer des aurores boréales et pour filmer les gens qui les étudient. Donc c'était incroyable. Et c'est le genre d'aventure qu'on arrive à vivre. Et voilà, il y a des projets à tous les niveaux, des petits niveaux. Là, on a une équipe qui essaye de développer un petit jeu vidéo autour des sciences. Et puis, des projets beaucoup plus ambitieux, comme la Planeterella.
Et toi, justement, Quentin, je pense que tu l'as... Enfin, ça fait beaucoup d'années maintenant que tu es dans l'asso, quand même. Comment elle a évolué au fil du temps, cette association ? Et peut-être comment a évolué la science aussi, si tu as vu une évolution de la science.
On voit une évolution, pas de la science, mais de la manière dont elle est perçue, ça c'est sûr, où elle est de plus en plus remise en question, menacée. Et c'est vraiment pas des mots que j'utilise à la légère. Hein. On le voit par exemple en ce moment aux États-Unis où on a Donald Trump qui décide de supprimer certains mots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains mots, si vous utilisez le mot diversité par exemple dans une demande de financement scientifique, vous ne serez pas financé aux États-Unis. Et donc toutes ces choses-là, toute cette perception-là, on le ressent de plus en plus, une défiance vis-à-vis des scientifiques. Et donc notre mission, elle est d'autant plus importante aussi d'être avec le public, d'être présent et d'amener aussi de la compréhension de comment se fait la recherche. On a pas mal évolué autour de ça. En fait, au début, c'était très amateur dans la manière de faire. Et d'ailleurs, on a envie de continuer d'avoir un peu cet amateurisme, ou en tout cas ce côté on découvre, on essaye et c'est pas grave si on se plante. On a beaucoup fait ça sur les réseaux sociaux, on a beaucoup fait ça sur Twitch, où si vous reprenez... nos vieux live Twitch, c'est d'une qualité sonore, visuelle, exécrable. Même le contenu, je le trouve un peu pas très bon. Mais c'est normal, en fait, on progresse, on évolue. Donc je pense qu'on s'est beaucoup professionnalisé aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les nouveaux membres bénéficient aussi de l'expérience des plus anciens. Donc elle a beaucoup évolué de cette manière-là. Après, on essaye de garder la même énergie et la même passion, presque la même débilité, j'ai envie de dire, parfois, où quand quelqu'un va proposer un projet qui paraît absurde, une des forces que j'ai trouvé qui, moi, m'a séduit dans cette association quand je suis arrivé, c'est que les gens me disaient « Ok, bah, on va voir, on va essayer, on va tester. » C'est vrai. Et des fois, ça marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Mais c'est cette énergie-là qui est hyper positive de ne pas commencer par juger, mais recevoir et dire « Ok, alors, dans quelle mesure on pourrait essayer de faire ça ?» Et en fait, on s'est retrouvé dans des situations... Enfin, je me serais jamais retrouvé à 1500 km du pôle Nord sans avoir eu un peu cette folie à un moment et avoir bénéficié de cette folie chez les gens de cet asso. Donc je dirais que ça, on essaie de le conserver aussi, de le préserver.
Une approche très scientifique, finalement, de faire des expériences de tout ce qui est proposé.
Complètement. Et de pas se dire, OK, on sait faire, on est des pros. Moi, ce serait une erreur si, en tant que médiateur, j'arrivais et je disais, OK, je sais faire, laissez-moi faire mon métier. Parce que je pense qu'on arrêterait d'inventer des choses et ce serait un peu dommage. Alors qu'avoir un petit grain de folie aussi quand on met en place des choses, c'est super important. Enfin, l'expérience de la banquise d'Ansara, c'est ça, c'est qu'il a fallu au début, pendant des semaines, mesurer des glaçons qui fondent, mesurer le temps. Donc j'arrivais au local et je voyais Ansara penchée sur un glaçon, à faire « Attends, je chronomètre, là, ça fait 2 heures ». Oui, très bien. Et en fait, ça donne une expérience aujourd'hui qui est géniale. Et les laboratoires eux-mêmes sont intéressés par l'expérience en disant « Ah, c'est super pour expliquer nos sujets ». Et cette folie-là, elle est hyper importante.
Une curiosité, une naïveté aussi, je dirais, de se dire, bah, en fait, oui, c'est possible, quoi. Naïveté pour démarrer le projet et après curiosité pour essayer de creuser le sujet vraiment à fond. Et maintenant, si on parle de l'expérience de la maquette de la banquise, par exemple, ça nous pousse à créer une maquette qui va très certainement évoluer parce que ça soulève plein d'autres problématiques et on va pouvoir parler de sûrement d'autres sujets avec... la deuxième version qui sera plus modulable.
Vous, votre but, c'est ce qu'on a vu avec ta maquette, c'est de vulgariser. Donc la vulgarisation scientifique, grande question, comment allier vulgarisation scientifique et rigueur scientifique? Parce que le but, c'est pas non plus de donner une vision trop simpliste, je pense. Donc oui, comment on fait ça?
C'est à moi, là, du coup.
Ah, ouais. Là, c'est à la scientifique. Moi, je suis pas scientifique, hein, c'est à toi.
Je trouve que moi, d'un point de vue personnel, l'association m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Parce que, justement, en tant que scientifique et surtout très jeune scientifique, hein, quand j'ai rejoint l'asso, ça faisait 6 mois que j'étais en thèse, je pense, même pas. Tout au début, ça devait faire 3 mois que j'étais en thèse, quoi. Et ça m'a permis de tout de suite découvrir plein de projets qui étaient possibles, notamment les Tribulations Savantes. Donc ça, c'est un événement qui a lieu sur le campus de l'UGA, de Grenoble, donc, où on convie des écoles à venir voir des expériences, des animations qui sont faites par des doctorants de l'université. Et en fait, ça m'a permis de découvrir ça. Et surtout, l'asso permet de centraliser pas mal de projets, centraliser aussi des moyens et des connaissances au niveau de développement d'animation, par exemple, ou de mise en place d'événements, comme les lives, comme les contenus qui vont être faits sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, c'est un soutien, c'est un gain de temps de pouvoir... juste apporter notre connaissance. Enfin, finalement, en tant que scientifique, j'ai l'impression de presque arriver juste avec ma connaissance et dire « Voilà, je sais ça. Maintenant, vous pouvez m'aider à développer techniquement tout ce qu'on peut faire autour de ça. » Donc, ouais, pour la rigueur, en tant que scientifique, c'est relativement... Enfin, normalement, les connaissances scientifiques et la démarche scientifique, on doit l'avoir à peu près. Et donc, du coup, arriver avec ces connaissances-là dans l'asso, ça permet d'avoir une certaine rigueur scientifique. Maintenant, il n'y a pas que des des gens qui ont un vrai background, un background qu'on pourrait dire 100% scientifique dans l'asso, mais ils arrivent à maintenir, je pense, une curiosité forte. Donc, ça veut dire se poser énormément de questions et remettre en question ce qu'ils savent, leurs connaissances et leurs connaissances pour pouvoir rester ouverts à ce que les scientifiques peuvent leur dire, quoi.
Eh bien, on va revenir dans un instant et je vous propose de faire une pause musicale.
Univox.
Univox. Je sens comme un désir ardent dans le sang qui se consume jusqu'au cœur de nos accords.
C'était la musique Lumière Bleue de la chanteuse Nour, donc dont le titre fait référence au radium qui a été découvert par Pierre et Marie Curie. Donc c'est une femme qui a forgé la science, Marie Curie. Donc justement, pour en venir un petit peu à la place des femmes dans la science, il y a une étude de l'association Elbouche qui a été publiée le lundi 23 septembre 2024. Qui montre que les femmes, elles continuent à être régulièrement découragées de faire carrière dans les métiers scientifiques et techniques. Donc, il y a notamment 82% des répondantes qui disent avoir été confrontées à des stéréotypes de genre durant leur scolarité. Donc, je voulais vous demander quelles sont les principales barrières qui sont rencontrées par les femmes dans le milieu scientifique. Peut-être que toi, tu as pu en rencontrer Anne-Marie, je ne sais pas. Anne-Sara, pardon.
Moi, en barrière scientifique, j'en ai pas beaucoup ressenti, j'avoue, dans mon parcours. Ça me demande un peu de réflexion. J'ai toujours beaucoup aimé les sciences et je pense que dans mon éducation, mes parents m'ont jamais mis de barrière et m'ont toujours dit que si c'était ça que j'aimais, il fallait que je continue, quoi. Et ensuite, comme ça marchait plutôt bien à l'école, j'ai pas trop ressenti ces barrières non plus. Mais je peux comprendre que c'est pas facile. Y a les barrières sociales, enfin, en fait, des barrières que sans forcément qu'elles soient palpables, on peut nous inculquer des choses dans l'éducation qui font qu'on va se tourner pour une fille moins vers les sciences qu'un garçon. Et à partir de ce moment-là, on peut se dévaloriser très vite, très fortement sur les matières scientifiques. Je pense notamment aux maths, à la physique. Et Ouais, je dirais que je pense que ce truc-là de, dès le départ, se dévaloriser un petit peu et donc du coup perdre confiance en soi sur ces matières-là joue énormément. Moi, c'est un truc qui me tient un peu à cœur quand je vois des petites filles qui viennent voir la maquette et je leur dis, bah, c'est possible. Enfin, j'espère leur transmettre ce truc de c'est possible, croyez-y quoi.
Ouais, mais c'est tout à fait ça qui a été démontré par l'étude, c'est de montrer qu'en fait, intérieurement, on met un peu les femmes dans une certaine voie. On dit parfois qu'elles sont plus faites pour les études littéraires ou des choses comme ça. Enfin, je sais plus les chiffres. Oui, c'est 64% des femmes qui ont été entendues. On dit qu'elles étaient plutôt faites pour les études littéraires. Et c'est des femmes pourtant qui voulaient faire des sciences, mais on leur a un peu inculqué ça. Justement, je voulais faire un lien sur la vulgarisation scientifique et quoi ça peut participer à inclure les femmes dans le milieu. C'est ça que je voulais vous demander.
Déjà, on touche l'idée de la vulgarisation et de la médiation, c'est d'essayer de toucher les gens d'un point de vue... Enfin, nous, ce qu'on cherche à faire dans l'asso, en tout cas, c'est intéresser, quand on s'adresse aux petits, souvent, c'est vraiment leur permettre de s'intéresser aux sciences sans ressentir au départ que c'est des sciences. Et donc montrer aux filles par exemple aux petites filles que bah, c'est cool ce qu'on fait là et ok derrière il y a des maths et de la physique, mais si ça t'intéresse tu peux totalement faire des maths et de la physique parce que là t'es en train de t'intéresser aux sciences, donc en fait t'es en train de trouver de la science cool, donc tu vas pouvoir faire tout ça de toi-même. Donc ouais, je pense que dans la vulgarisation scientifique effectivement on peut jouer un rôle sur l'inclusivité des femmes.
Il y a aussi la question de la représentation qui est centrale, que nous, on ressent bien aussi rien que dans l'asso, où en fait, il y a par exemple, alors j'ai plus le crédit de l'étude, donc ça va pas faire très, très rigoureux pour le coup, mais une étude il y a quelques années aux États-Unis qui avait montré qu'à partir de l'âge de 6 ans, si vous demandez à un enfant de dessiner une personne scientifique, et j'insiste sur le « une personne scientifique », vous ne genrez pas, ça va être un vieux monsieur avec une blouse blanche. Et à partir de l'âge de 6 ans, ce qui est extrêmement tôt, en fait, le stéréotype de genre, il est ancré au plus profond de nous-mêmes, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est aussi là-dessus, sur le très jeune âge, qu'il faut pouvoir montrer que non, la science, elle est aussi féminine, et de montrer notamment des visages scientifiques. Et nous, on le sent même, par exemple, pour les live Twitch, quand on propose aux scientifiques, il y en a forcément qui refusent parfois, pour plein de raisons, quand les hommes refusent, généralement, c'est pour des raisons de planning, pour des raisons de non-intérêt aussi parfois, en disant « je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment ». Quand une femme refuse, quasi systématiquement, c'est « non, mais je ne suis pas assez forte pour ça, non, mais je ne suis pas à ma place, non, mais je face à une caméra, je ne suis pas sûr que je sais faire ». Et on n'a jamais de refus d'hommes qui nous disent « je ne suis pas assez calé, je ne suis pas assez compétent ». Et ce truc-là de se sentir incompétent, on le retrouve partout dans le monde du travail d'ailleurs quand on parle de l'inclusivité, mais nous on le ressent bien à notre échelle, on essaye d'atteindre la parité à chaque fois dans nos invités, et c'est très compliqué pour cette raison-là aussi, c'est qu'à chaque fois que des femmes refusent, c'est pour ces raisons-là, qui sont, à mon sens, totalement non valables. C'est-à-dire que si vous êtes scientifique et qu'on vient vous chercher pour parler de votre sujet, vous êtes légitime. Il n'y a pas... Donc, c'est aussi quelque chose sur la représentation qui est un vrai combat à mener.
Et justement, sur cette représentation des sciences un peu dans l'imaginaire collectif, vous, si vous pouviez changer une chose dans la manière dont les sciences, elles peuvent parfois être perçues par le grand public, qu'est-ce que ce serait ?
Moi, j'ai une idée toute faite, mais je vous laisse répondre si vous voulez. Mais...
Moi, je dirais qu'elle nécessite juste de la curiosité et que finalement, c'est accessible. Que si on s'y intéresse, on peut comprendre. Tu comprendras peut-être pas le dernier théorème de maths qui a été publié, mais c'est pas grave ça. S'il y a une question que tu te poses et que à laquelle tu as envie d'avoir une réponse, bah, sois curieux, pousse un peu et tu vas comprendre.
Ouais, c'est tout sauf élitiste la science. Et voilà, et si vous rencontrez dans votre vie un scientifique, vous vous dites ouais, c'est un génie, et où il joue un peu sur ça, sur cet aspect, non mais moi je connais des choses, gros red flag. C'est pas forcément quelqu'un de si compétent que ça. Et plus il ressemble à l'idée que vous vous faites de ce qu'est un scientifique, un peu cliché, plus ça craint. Donc moi, si je pouvais changer ça, ce serait ça. Ce serait vraiment l'image qu'on se fait des sciences. Les sciences ne sont pas là pour expliquer tant que ça. Elles sont là pour essayer de comprendre. Et toute la nuance. Quelqu'un qui vous explique quelque chose, c'est chouette. Mais les sciences, elles sont là pour... On est là pour chercher, en fait. On appelle ça des chercheurs, pas des trouveurs. Et en fait, c'est le plus important aussi. Si on arrive à comprendre ça, je pense on pourra... ça ira peut-être un peu mieux, alors pas sur tous les fronts, mais en tout cas en science, ça ira peut-être un peu mieux.
Univox.
Pour terminer, sur une note un petit peu plus légère, je voulais vous demander, vous, qui était votre scientifique que vous admirez le plus?
Moi, je dirais Katharina Johnson. En plus, c'est une femme. Eh ouais, ils font des têtes dans le studio. Non? Katharina Johnson, une dame qui... Les astronautes qui partaient en mission vers la Lune demandaient à ce qu'elle relise elle-même les calculs de trajectoire. Donc elle était dans une équipe. Il y a un excellent film qui s'appelle Les Femmes de l'Ombre, que je conseille à tout le monde. Qui justement, donc c'était des femmes noires, parce qu'évidemment ça coûtait moins cher à l'époque. Je pense aussi aujourd'hui, malheureusement. Elles ont fait quelque chose d'incroyable. Elles ont permis à des humains d'aller sur la Lune en vérifiant elles-mêmes l'intégralité des calculs à la main. Et cette femme a été reconnue très tardivement. Elle a été décorée par Barack Obama, alors que les missions vers la Lune, c'était dans les années 70. Donc, ouais, voilà.
Bah, parfait. Je ne sais pas si vous vouliez encore rajouter quelque chose sur votre association, comment la rejoindre.
Vous pouvez nous suivre sur à peu près tous les réseaux sociaux. On est pas mal actifs sur Instagram, sur Blue Sky. On a une page web aussi où on met régulièrement des infos. Vous pouvez nous rejoindre dans l'asso sur notre serveur Discord notamment, où on met en place les projets. C'est gratuit et chacun vient, donne ce qu'il a à donner, prend ce qu'il a à prendre et sans aucune pression. Donc voilà.
Il n'y a même pas besoin d'être à 100% sur Grenoble pour rejoindre l'asso.
Non, on a des personnes qui sont à l'étranger et tout, qui participent quand même à leur échelle et à plein d'actions. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis à nous contacter en MP, on répond toujours très rapidement.
Et donc on rappelle, le nom c'est Auroralp.
Voilà, tout collé, comme des aurores et comme les Alpes.
Et bah merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.